Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 12 janvier 2000.
23.
Oui, mesdames et messieurs, c'est la nouvelle année, notre première émission de la nouvelle année, évidemment. On était là en ondes le 15 décembre dernier, ça fait 4 semaines. On est bien contents et contentes de vous retrouver. Donc, les Apatrides Anonymes, 1h30 ce soir au lieu 1h10, d'enjeux sur les frontières, l'immigration, le racisme, les droits humains, les frontières, etc., etc., etc. Donc, aujourd'hui, émission spéciale de la part de vos trois animateurs, animatrices, producteurs, productrices. Mon nom est Mathieu, je suis avec Marie-Ève.
Allô?
Allô? Simon est à la mise en onde pour l'instant.
Oui, j'essaie là. Bonjour,
oui,
bonjour.
Oui, bonne chance, Simon. Donc, émission spéciale où il va y avoir, à la fin de l'émission, les perspectives 2023. Il va avoir aussi...
Ben oui, on commencera pas avec ça, certain.
Ben oui, voilà, j'explique le déroulement. Certaines catégories marquantes, ben marquantes précises, comme pays ou région marquante, personnalité ou organisation marquante, un résumé d'enjeux sur le racisme, l'immigration et les enjeux autochtones, et aussi les fameuses citations racistes aussi en fin d'émission.
Oui, ma catégorie préférée.
Exactement. Et en deux parties, un quiz pour tester nos et vos connaissances.
Et cette fois-ci, c'est toi qui le fais, Mathieu.
Oui, c'est moi qui l'ai fait, qui l'anime, des beaux choix de réponses, et vous avez préparé des choix de réponses loufoques ou sérieux.
Hein? Oui, monsieur.
Non, non, que sérieux, mais on gagne quoi?
On gagne une bière ensuite dans un bar de votre choix. Donc, voilà. Donc, émission spéciale de 90 minutes avec aussi quelques pièces musicales qui nous ont marquées dans l'année, des artistes qu'on a beaucoup aimés, qu'on va vous faire jouer juste du 2022, on vous le promet. Donc, ben voilà, on va commencer tranquillement avec quelques notes de musique et on y va avec Simon, non, Marie-Ève, 2022 en chiffres.
Ben oui.
Donc, Madame Statistique, cette année, cette semaine, donc avec plein de chiffres, plus ou moins joyeux, Marie-Ève, hein, quand même, faut se le dire.
Ça n'a pas été une année facile.
Non.
Ben, en tout cas, vos oreilles, je vous avertis tout de suite, vos oreilles risquent de saigner un peu, là,
de
étant
saigner.
Donné la teneur de ce segment. Hein, je risque de vous garrocher quelques chiffres.
Vas-y, Marie-Ève.
J'espère quand même arriver à rendre ça un peu digeste. Je commence par le nombre de journalistes et employés des médias tués dans l'exercice de leur fonction, sur lequel je ne m'étendrai pas trop longtemps parce que Simon en a déjà un peu parlé à la mi-novembre, mais je reviens quand même parce que les chiffres ont été mis à jour et, comme on pouvait s'y attendre, ils sont pas en baisse, hein, sont en augmentation. Selon la Fédération internationale des journalistes, ce sont 67 journalistes et employés des médias qui ont été tués dans le monde en 2022, contre 47 l'année passée. Ce sont surtout, évidemment, la guerre en Ukraine, le chaos en Haïti et la violence croissante des groupes criminels au Mexique qui ont contribué à cette augmentation-là. D'ailleurs, l'année 2022 a été l'une des plus meurtrières jamais enregistrées pour les journalistes au Mexique, qui est maintenant considéré comme le pays le plus dangereux pour eux et elles, en dehors d'une zone de guerre, on s'entend.
Exactement, oui.
À la fin de l'année aussi, la Fédération recensait 375 journalistes emprisonnés pour leur travail.
Dans le monde.
Le monde. C'est comme ça que l'année s'est clos. C'est une dizaine de plus que l'année passée. Les chiffres les plus élevés sont enregistrés en Chine, à Hong Kong, au Myanmar et en Turquie. Toujours à l'échelle de la planète, l'année 2022 a connu un nombre record de personnes migrantes qui relèvent spécifiquement du HCR, c'est-à-dire réfugiés, déplacés internes, migrants irréguliers et demandeurs d'asile. Le HCR évalue à plus de 100 millions pour cette année.
Pour la première fois, 100 millions. Hein?
Ouais. Les 5 pays d'origine les plus importants sont en ordre décroissant. L'Ukraine, bon, on s'y attend, avec près de 8 millions. Suivi par la Syrie, avec près de 7 millions. Vient ensuite le Venezuela, quand même tout près à 6,5 millions. Et ensuite, on y va avec l'Afghanistan à 3 millions et le Soudan du Sud à un peu plus de 2 millions. Évidemment, bon, les guerres, les conflits, l'instabilité politique sont des causes importantes, mais ce qu'on remarque particulièrement cette année, ben pour 2022, c'est que les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes sont les premiers facteurs de déplacement à l'échelle mondiale désormais. Pour vous donner une idée, en 2021, qui était la dernière année compilée, il y a eu près de 24 millions de déplacements dus aux désastres naturels, des tempêtes et des inondations surtout, contre 14 millions à cause des conflits. C'est quand même
une grosse
différence. Et puis, mais cette année, en 2022, la sécheresse chronique dans la Corne de l'Afrique à elle seule touche 20 millions de personnes et les inondations au Pakistan ont forcé 33 millions d'autres personnes à fuir temporairement leur foyer. Donc, les chiffres pour 2022, qui sont pas encore sortis, risquent d'être beaucoup plus élevés que ceux que je vous parlais de 2021.
100 millions, c'était 2021, oui.
Non, je parle des ce qui est des...
changement climatique.
Des désastres naturels, des déplacés pour les parler des désastres naturels.
Parfait.
Et il faut savoir aussi que les conflits sont bien souvent eux-mêmes causés par le stress environnemental et les désastres naturels qui, eux, provoquent des luttes pour les ressources. C'est particulièrement le cas en Afrique, où se trouve le plus grand nombre de personnes relevant de la compétence de la HCR, du HCR, soit 38,2 millions, soit c'est 40 % du total mondial. Suivent ensuite les Amériques avec 18 % des personnes déplacées, encore une fois, qui relèvent du HCR, dont près du quart sont des Vénézuéliens. Et selon une autre étude conjointe des Nations Unies et d'une firme là, de consultants qui est BCG Anderson Institute, il serait même 280 millions dans le monde à être considérés comme des migrants at large, là, tu sais, pas nécessairement qui relèvent du HCR.
Genre économique aussi, par exemple.
Oui, c'est ça. Si ces personnes-là habitaient dans un pays, ce pays-là serait le quatrième plus peuplé de la planète.
OK.
Et le phénomène est si important que, selon l'étude, les migrants constituent dans leur ensemble la troisième économie mondiale après les États-Unis et la Chine. Leur travail générerait environ 9 000 milliards de dollars. Et ça compte même pas les domaines comme la consommation, l'entrepreneuriat ou l'innovation. Donc,
Les migrants, ça.
Ouais, c'est ça, les migrants, pas seulement là, ceux qui sont déplacés ou les... C'est ça.
Ou ceux qui sont installés, tout ça, ouais.
C'est
ouais,
ça. Ouais. Je me tourne maintenant vers l'Europe où, selon les données de Frontex, 308 000 personnes, l'Europe et les routes migratoires européennes ou vers l'Europe. Donc, selon les données de Frontex, 308 000 personnes ont franchi de façon irrégulière les frontières de l'Union européenne en 2022. Et selon les données du HCR, ce chiffre-là inclut 150 000 arrivées par les routes maritimes et terrestres de la Méditerranée. Ce que je veux préciser, c'est qu'on n'a pas encore les chiffres pour la totalité des arrivées.
De l'année.
J'ai seulement trouvé les arrivées irrégulières.
OK.
Et qui dit franchissement de frontières, qu'elles soient maritimes ou terrestres, dit perte de vie humaine. Et c'est là que le tableau... s'obscurcit, si on peut dire. Selon l'OIM, l'Agence de l'ONU pour les migrations, ce sont au moins 5684 décès qui sont recensés sur les routes migratoires à destination et au sein de l'Europe seulement depuis 2 ans, parce que là encore, on n'a pas des chiffres pour 2021, c'est par tranche de 2 ans. Donc...
Pour 2022, oui, on n'a pas des chiffres.
2020, c'est ça.
Oui.
Au moins 2836 décès et disparitions ont été documentés en date de la mi-octobre sur la route de la Méditerranée centrale depuis 2021. Sur la route Afrique de l'Ouest vers les îles Canaries espagnoles, ce sont 1532 décès qui ont été documentés. Et depuis 2021, des augmentations du nombre de décès sur plusieurs autres itinéraires européens ont été aussi documentés par rapport aux années précédentes. C'est le cas, par exemple, de la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, où on recense plus de 100 décès. L'OIM a aussi documenté des morts sur les itinéraires des Balkans, étant donné que la route là s'est rouverte, si on peut dire, des Balkans occidentaux, mais aussi la traversée de la Manche, les frontières entre le Bélarus et l'Union européenne, et les décès là, de personnes ukrainiennes qui fuyaient le récent conflit.
Okay.
Eux autres sont 17. Mais il y a aussi des décès qui surviennent lors d'expulsions forcées. Là, je parlais de de franchissement de frontières, mais lors d'expulsions forcées par les autorités européennes, que les rapports de survivants qui ont été relayés à l'OIM estiment à au moins 252 depuis 2021.
OK.
À elle seule, la Méditerranée compte pour 190 décès lors de toujours lors d'expulsions forcées,
ouais.
Suivi par la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce qui est à 58 décès et entre la Biélorussie et la Pologne qui est à 4 décès. Je tiens à préciser que toutes ces données-là sont bien en deçà de la réalité, évidemment. Les décès lors d'expulsions forcées sont presque impossibles à vérifier dans leur intégralité là en raison du manque de transparence, du manque d'accès et de la nature hautement politisée aussi des événements. Puis en ce qui concerne les traversées en mer, par exemple, ben il existe de nombreux cas où des bateaux entiers sont perdus en mer sans qu'aucune recherche, sans qu'il y ait aucune recherche puis aucun sauvetage qui soit effectué.
Mmh.
Et donc je vais conclure là-dessus. Je sais que c'est beaucoup. J'aurais eu évidemment plus de chiffres. Plus précis à vous donner, entre autres sur les arrivées de personnes migrantes plus spécifiques dans certains pays européens, sur les traversées de la Manche ou encore sur les détentions de personnes migrantes dans le monde, sur les arrivées aux États-Unis ou au Canada. Mais bon, par manque de temps puis pour éviter de vous assommer, je garde ça pour d'autres émissions.
On en reparlera peut-être émissions. Au courant de l'émission de certaines petites choses à traverser.
Peut-être, oui.
Merci Marie-Ève pour chiffres de 2021-2022. On y va avec le quiz dans quelques secondes. Ce n'est pas Pierre Lalonde, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon pour notre quiz 2022-2023 des apatrides anonymes. On va commencer dans la première partie avec des questions rétrospectives sur l'année qui vient de se terminer il y a quelques semaines. Donc, j'ai des questions, j'ai des choix de réponses et mes collègues qui n'ont pas vu mes choix de réponses en ont préparé soit des loufoques, soit des sérieux, soit des entre les deux. Et donc, mais vous allez avoir la bonne réponse à la maison si vous ne la savez pas, évidemment. Dans mes choix, il y a toujours une bonne réponse. Donc, première question, les amis. En mars dernier, le prince William et sa femme sont allés visiter la Jamaïque, Belize et les Bahamas, voyage qui a coûté 265 millions d'euros. C'était 5 jours. Pour quelles raisons officielles se sont-ils déplacés?
Attends, dis pas tout de suite les choix de réponse.
Ben oui, j'ai dit. Oui.
Ah.
A, pour un tournoi de polo. B, pour la semaine de la mode de Nassau.
Oh.
C, pour saluer les enfants au travers d'un grillage. Ou D, pour présenter des excuses au nom de la couronne britannique pour le commerce des esclaves. Simon?
Ben, je dirais toutes ces réponses plus la mienne.
Vas-y.
Ben, moi, je pensais que c'était pour restituer à la Jamaïque la momie de Bob Marley qui était au British Museum.
Non, ça aurait pu, mais non. Marie-Ève?
Ben, moi, je pensais que c'était pour aller boire des pina coladas avec du vrai lait de coco frais, parce que c'est toujours important d'acheter local dans les anciennes colonies.
Oui, tout à fait, surtout quand on a autant d'argent à dépenser. La bonne réponse, c'était les excuses au nom de la couronne britannique pour le commerce des esclaves.
C'était aussi la fin des grillages, non?
Ben, c'était pas prévu, mais ils ont salué des enfants au travers d'un grillage. Je sais que des petits-enfants, oui, ça avait fait... C'est un voyage complètement scandaleux et catastrophique, là. Donc, on avait oublié la raison officielle. Ça avait lieu dans le cadre du jubilé de Platon. De la vieille chouette qui est décédée finalement en 2000, quelques semaines après.
Chippie 2.
Deuxième question. Ça, c'est précis. Par qui Bruno Pereira, scientifique autochtone, et Dom Phillips, journaliste britannique, ont-ils été tués en juin dernier dans la vallée du Javari, en Amazonie brésilienne? Choix 1, par des partisans de Bolsonaro. Choix 2, par des pêcheurs braconniers. Ou choix 3 par des méduses géantes. Marie-Ève.
Mais moi, j'aurais dit par Bolsonaro lui-même.
Non. C'était ma réponse aussi, puisqu'il s'appelle le Messia, tu sais, il est comme Dieu,
Dieu le commande. Omnipotent.
Dieu le commande. Et non, c'était par des pêcheurs braconniers. Hein, c'était parce que les pêcheurs non autochtones n'ont pas le droit de pêcher le pirarucu, plus gros poisson d'eau douce en Amérique du Sud.
Pirarucu.
Pereira avait mis sur pied des patrouilles en l'absence de surveillance de l'État depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro. Donc, il y a un lien, évidemment, c'est sûr. En troisième question, quel pays a été surnommé la 33e nation qualifiée à la Coupe du monde de soccer du Qatar? Choix 1, le Québec. Choix B, la Transnistrie. Choix C, la Palestine. Choix D, le Haut-Karabagh.
Le quoi?
Haut-Karabagh.
Ah. On apprend plein de choses.
Ben écoutez, oui.
Marie-Ève, moi, là, j'ai honnêtement, j'ai comme pas compris la question.
OK, je vais l'expliquer après. Mais Simon?
Ben moi, j'aurais dit la Turquie, vu qu'elle a changé de nom en anglais. Maintenant, c'est Turquie, K-I-Y-E, pour plus s'appeler dinde en anglais. Donc...
Non, la Turquie n'était même pas la Coupe du monde. Mais non, c'est la Palestine, parce que les revendications, les actions pro-palestiniennes ont été nombreuses à l'intérieur et à l'extérieur des stades, particulièrement de la part des supporters marocains. Ouais.
J'aurais pensé peut-être les... La nation LGBTQ plus de...
Au Qatar,
c'était
ouais.
pas aux Olympiques, je pense.
Ou l'équipe des réfugiés, comme aux Olympiques, oui. Quatrième question. Lequel des partis suivants ne fait pas partie de la nouvelle coalition d'extrême droite de Netanyahou au pouvoir en Israël depuis quelques semaines? Regardez bien les choix. Il y en a seulement un qui n'est pas un vrai parti. Judaïsme unifié de la Torah, sionisme religieux, parti de la vérité historique ou pouvoir juif. Lequel n'est pas un vrai parti?
Ils ont toute la vraie, mais...
Simon, monte ton son un peu, ça. Ouais.
Ben, ils ont toute la vraie, ceux que tu as nommés, mais moi, je disais qu'Israël solidaire. Mais...
Ah, non, je ne l'ai pas vu, celle-là, Marie-Ève.
Ben, c'est Pouvoir juif qui n'est pas un vrai.
Non, Pouvoir juif, c'est un vrai parti.
Ah, ouais?
C'est un des vrais partis de la nouvelle coalition. Le faux que j'ai inventé, c'est Parti de la vérité historique.
OK, ben moi, j'aurais dit Tahal.
Tahal.
Qui est un vrai parti, mais qui est pour qui représente la minorité arabe.
Oui, qui n'est pas dans la coalition. Mais là, tu as pris la question autrement. Mais judaïsme unifié de la Torah, sionisme religieux et pouvoir juif, ce sont des vrais partis, des petits partis extrémistes. Là,
j'avais vu, ouais, c'est ça, les deux autres.
Cinquième question. Combien a coûté le groupe d'intervention pour la sécurité de la collectivité et de l'industrie, GISCI, de la GRC, en Colombie-Britannique depuis 2017 pour réprimer les mobilisations de Ferry Creek et celles contre le gazoduc Coastal GasLink et le pipeline Trans Mountain? Là, mes choix, c'est des chiffres. Donc, 15 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions. Il y a pas beaucoup d'humour là-dedans, là. Une réponse, Marie-Ève?
Ben, moi, j'ai spontanément dit 15 millions, mais je pense que c'est plus.
C'est plus. Simon?
Ben, c'est un des chiffres que tu as nommé, mais je dirais que ça a aussi coûté beaucoup de blessures, d'accusations criminelles et de casiers judiciaires.
Évidemment, évidemment. C'est 50 millions. Le GISCI n'a pas de juridiction territoriale définie, un nombre inconnu de membres et n'a pas de cadre budgétaire. Et les plaintes contre lui s'accumulent depuis 2017.
Ben ouais.
Une belle création de la GRC. Je pense que je vais y aller avec une dernière question. On va pouvoir... Aller accélérer pour avoir du temps pour nos autres sujets. Parce que quel musée canadien est dans la tourmente depuis quelques mois en raison d'une démarche de décolonisation dont le but est de faire plus de place aux perspectives autochtones? A. Le musée Juste pour rire. B. Le musée des Beaux-Arts du Canada. C. Le musée de la GRC. Ou D. Le Royal Ontario Museum. Marie-Ève.
Ah, ben moi, ma réponse, elle n'est pas dans tes choix.
Vas-y donc.
Puis elle n'est pas drôle.
OK.
Ben, elle peut être drôle si on est cynique. C'est le Musée canadien de l'histoire?
Non.
Ça aurait pu,
ça aurait pu. Ou le Musée canadien des droits de la personne. Ça, il y a eu des gros problèmes. Là, Simon?
Ouais, ben moi, j'aurais dit le Musée mémorial à Julie Payette.
Ah, je ne le connaissais pas, celui-là.
Non, il
n'existe pas.
Il est en projet.
Non, c'est ça, c'est le Musée des Beaux-Arts du Canada, le plus gros musée au Canada, le plus important. Les mouvements de personnel sont assez vigoureux. Une vingtaine de congédiements et de départ depuis 2 ans. L'approche adoptée demande de travailler sur 2 axes, je vous lis ça. Le premier veut inclure les façons d'être et formes de savoir des Autochtones parallèlement aux normes occidentales. Et le second axe mise sur la justice, l'équité, la diversité, l'inclusion, l'accessibilité pour contrer le racisme systémique, la discrimination et les autres obstacles à l'inclusion. Mais ça a fait tout un chaos que l'ex-DG Marc Maillé, qui était là avant cette histoire-là, il a parlé d'un coup d'État et de révolution russe par rapport à ce qui se passe au Musée des Beaux-Arts du Canada.
Mon Dieu, ça va.
Oui.
Un petit peu
d'enfer. Dans le milieu de l'art, hein, quand il se passe quelque chose, ça part en fou. Hein?
Je pense qu'il est anti-woke.
On parlera des anti-woke plus tard, Marie-Ève. Révèle pas. Donc, on va y aller avec une première pièce musicale. Attendez que je retrouve mes feuilles. Voilà, c'est mon choix à moi, fait que ça serait bien que j'ai les informations.
Monsieur Maisonneuve, il est mêlé.
Ouais, c'est ça, je te verrais bien animé. Hein?
La retraite arrive.
Mmh. On va continuer à Radio Ville-Marie. Donc, première pièce, c'est mon choix. Donc, Sidi Wacho, dont j'avais fait jouer la pièce La Voisina plus tôt cette année. C'est la pièce Valse Antifascista, qui est une belle valse antifasciste, ça porte bien son nom. C'est leur 4e album, Cali Sound System, sorti en 2022. C'est un collectif basé à Lille. Dont certains musiciens aussi sont originaires du Chili, groupe très engagé dans la scène française world, mais punk aussi et tout ça. Donc, on va y aller donc à l'instant avec Sidi Wacho.
Es el vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Es el vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás. En la esquina de un lugar de bar, borracho de idea, me puso a bailar. Tus ojitos de bandida no me dejan de mirar. Brindemos por los que están presos, brindemos por los que no están. Aunque la muerte sea nuestro final, nuestra trinchera es ya amor y libertad. La borraca va de algarabía, ríos de lágrimas, caos y felicidad. Aunque la muerte sea nuestro final. Es el vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Es el vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás.
Tu veux une vague antifasciste, t'es motivé, t'es sur la piste, tu l'enregistres dans la playlist, tu la partages, tu prends des risques, t'es un wokiste, séparatiste, t'es un gauchiste, indigéniste, t'es anarchiste, t'es féministe, faut que tu fasses gaffe, t'es sur la liste, tu veux de la valse, tu veux guincher, t'auras du rap, poil à gratter, ça va kicker, ça va piquer, y'a des oreilles qui vont saigner, ils ont la haine des immigrés, ils ont la trouille d'être remplacés, n'en fallait pas nous inviter, n'en fallait pas coloniser, on est sincère, on est bruyant, on est bavard, on est barbare, on est saoulant, évidemment, on est sympa, mais pas souvent. On refait le monde, il est hardcore, on le critique, on le décore, on le bouscule, on l'améliore, quand on est plein, on est plus fort.
Es el vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Es el vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás.
Sidi Wacho, la pièce Valse Antifascista, vous l'aviez deviné, donc une des pièces marquantes de l'année. On poursuit avec notre première section à trois, donc on y va chacun avec un court énoncé sur le sujet. La première section, c'est pays ou régions marquantes, et je commence avec Marie-Ève à l'instant, vas-y.
Moi, je me suis un peu inspirée d'Info Migrant, le site de nouvelles qui est une de nos sources d'information. Ma région marquante est liée à un événement de l'année, soit la mort en juin d'au moins 23 personnes migrantes à Melilla, alors que 2000 d'entre elles, majoritairement originaires du Soudan, tentaient de pénétrer dans l'enclave espagnole au Maroc. Les images amateurs du drame qui ont circulé, si vous vous en rappelez, là, étaient particulièrement choquantes. Montrait des amoncellements de corps inertes qui gisaient au sol, des visages de personnes en grande souffrance et des forces de l'ordre qui distribuaient les coups de matraque à des personnes déjà à terre. D'ailleurs, fin décembre, là, développement, la justice espagnole a clenché l'enquête sans suite, jugeant, et je cite, que aucun signe de délit dans les agissements des agents des forces de sécurité espagnoles n'ont été identifiés.
Bien sûr.
Une déduction qui peut pour le moins surprendre, hein, compte tenu des nombreux rapports et enquêtes qui affirment le contraire exactement. Des experts de l'ONU avaient par exemple condamné à la fin octobre le manque de responsabilité attribué à la fois aux autorités marocaines et espagnoles dans ces violences-là.
Oui, tout à fait, oui.
Et dans ses conclusions, la justice espagnole va même jusqu'à qualifier d'hostile et violente l'attitude des migrants envers les agents marocains et espagnols. Si vous vous rappelez aussi, il y a plusieurs exilés qui ont tenté de passer la frontière ce jour-là et qui ont d'ailleurs été poursuivis par la justice marocaine pour entrer illégal sur le sol marocain, violence contre agents de la force publique ou attroupement armé. Et des dizaines d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison allant de 2 ans et demi à 3 ans de prison ferme.
Mm-hmm. Au Maroc, ouais.
En terminant, peut-être dire que plusieurs expliquent cette décision outrageante-là par la volonté de l'Espagne de préserver ses relations avec le Maroc. Relations qui ont connu un certain rapprochement là, depuis mars 2022. Depuis que Madrid a reconnu publiquement le plan d'autonomie du Sahara occidental. Puis on voit que le rapprochement entre l'Espagne et le Maroc s'est traduit par un engagement majeur du Maroc en termes de contrôle de l'immigration. Sur le terrain, on le voit, la pression est omniprésente. Les autorités laissent plus les migrants tranquilles. Ça peut juste contribuer à créer des drames comme ceux du 24 juin.
Exactement. Merci beaucoup, Marie-Ève. Moi, je vais y aller avec une autre région marquante dont on n'a pas beaucoup parlé. République dominicaine, Haïti, puis un peu Cuba, si j'ai le temps. En République dominicaine, de février à novembre 2022, le groupe d'appui aux repatriés et réfugiés a recensé 73 000 expulsions, dont 2 000 mineurs non accompagnés et 1 500 femmes enceintes. Tu vois, moi, j'ai des chiffres pour compléter, Marie-Ève.
Merci.
60 000 d'entre eux ont fait un séjour en prison, donc sur 73 000. 50 000 Haïtiens sont retournés dans leur pays de façon volontaire. Et on ne compte pas les personnes refoulées aussi, qui n'ont même pas pu rentrer sur le territoire. Les organisations de défense des migrants dénoncent également l'illégalité de certaines expulsions réalisées hors des points officiels de frontières, parfois la nuit et dans des camions-cages. On a vu des images, ouais. C'était assez spectaculaire. On parle carrément de chasse à l'Haïtien et à toute personne à la peau noire. Même les touristes américains ont été arrêtés. On y voit au faciès, là, dans la rue, sur les plages et dans les villes de la République dominicaine. On parle de plus en plus de l'ultranationalisme dominicain, courant minoritaire mais très actif. Ses partisans manifestent régulièrement leur haine contre la population noire, composée d'Haïtiens, mais également de Dominicains, dont les ancêtres étaient esclaves sous le régime colonialiste espagnol. Dans un article du quotidien Le Nouvelliste de Port-au-Prince, on dénonce l'ethnocentrisme primaire qui caractérise le nationalisme chez certains secteurs académiques, ecclésiastiques et politiques dominicains, et qui, depuis 1844, promeut la construction d'une nation dominicaine par opposition directe à Haïti. Mm. L'article s'appelle « L'ethno-nationaliste dominicain ou la fabrication d'un ennemi identitaire haïtien ». En février, la construction d'un mur de 160 km de long, le long de la frontière a été lancée au coût de 31 millions de dollars, qui fait juste la moitié de la frontière en plus, ce 31 millions. Comble de l'ironie, ce sont en bonne partie des Haïtiens en situation irrégulière qui travaillent à la construction de ce mur. Quand même... Je vais garder Cuba pour une autre fois. Tiens, je vais passer la parole immédiatement à Simon pour nous parler de la... Vas-y, présente-toi. Ben,
de la région Indo-Pacifique et non de la stratégie Indo-Pacifique de Mélanie Joly qui veut signer des accords de libre-échange avec tout le monde. Donc, je vais commencer avec l'Inde qui est au cœur de la région, la soi-disant plus grande démocratie au monde. L'Inde en 2022, c'est la consolidation du pouvoir très autoritaire de Narendra Modi, hindouiste extrémiste dont le parti, avec les gains électoraux de cette année, contrôle plus de régions que jamais depuis son accession au pouvoir en 2014. Il y a vraiment des purges envers les opposants, les journalistes, les environnementalistes, envers plusieurs minorités, mais surtout contre les musulmans qui se sont fait servir encore plus de nouvelles lois discriminatoires l'année dernière. Ensuite, Myanmar, on en a moins parlé parce que le génocide des Rohingyas date quand même de 2016, mais les violences continuent. Entre 800 000 et 1 million de réfugiés Rohingyas toujours dans des camps au Bangladesh, camps qui étaient déjà à la base des milieux assez difficiles, ben après des années, suite à la pandémie, aux catastrophes naturelles, aux crises énergétiques, économiques, les conditions dans les camps sont devenues intenables au point qu'on constate de plus en plus de traversées en mer du Bangladesh vers l'Indonésie. Donc, imaginez, en Méditerranée, les traversées sont de quelques dizaines ou centaines de kilomètres au maximum. Là, on a presque 4000 kilomètres entre le Bangladesh et les côtes indonésiennes les plus proches. Donc, la fin de l'année a été marquée par l'arrivée de plusieurs embarcations de Rohingyas complètement déshydratées pour ceux, celles qui arrivent à se rendre parce que les ONG pensent qu'il y a eu aussi beaucoup de bateaux qui ont chaviré. Sinon, en 2022, la Cour pénale internationale a finalement accédé à la requête de la Gambie, je ne sais pas pourquoi la Gambie, mais qui datait de 2019 et elle va enquêter finalement sur le génocide sur les dirigeants du Myanmar. Je termine avec pour la région Indo-Pacifique avec le Sri Lanka, qui est dans un genre de brouillard politique actuellement. On se rappelle le soulèvement qui a fait fuir du pouvoir les deux frères Rajapaksa, ce qui nous avait donné des belles images de Sri Lankais qui envahissaient avec le sourire les palais présidentiels, se prenaient en selfie dans les salles de bain dorées et faisaient le party dans les piscines en marbre. Ben, c'est passé plein de choses depuis ce temps-là.
Aha.
Mais je dirais juste qu'il y a des élections qui s'en viennent en février, mais entre-temps, ça reste très compliqué. Beaucoup de pénuries, situation de crise alimentaire et sanitaire. Beaucoup ont fui et continuent de fuir leur pays. Et voilà, en 2023, on, On verra avec les élections, mais je crois pas que ça va se régler d'ici là. Donc voilà pour mon petit tour très rapide de la région Indo-Pacifique.
Parfait, on a fait ça assez brièvement, tout le monde, un bon petit résumé. Donc je répète pour les gens qui étaient un peu moins attentifs, on a parlé de Melilla et du Maroc, on a parlé aussi de République dominicaine, Haïti et maintenant de la zone donc Pacifique. On va y aller avec quelques notes de musique et ensuite on vous revient avec les personnalités ou organisations marquantes. Ça crie dans cet extrait musical, ce marqueur. Donc, on va y aller avec les personnalités ou organisations marquantes. La première, c'est Simon, ça va fesser, hein? Les anti-woke.
Encore moi?
Ah oui, 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 écoute.
Ben, je pense que woke, c'est le mot le plus écrit et prononcé de 2022. Tellement généralisé que même Legault l'utilise et je pense qu'il n'hésiterait pas à traiter Choc ou les apatrides anonymes de woke.
Oh non!
Ben, en tout cas, faut se préparer psychologiquement. On ne sait pas exactement qui sont les woke, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, mais on connaît très bien les anti-woke parce que certains ont juste ce mot-là à la bouche. C'est une obsession assez grave chez certains opinionneux de droite et d'extrême droite. C'est vraiment caricatural selon moi. Ils n'ont pas trop l'air de comprendre le concept, mais l'utilisent quand même à toutes les sauces pour discréditer leurs interlocuteurs, qu'ils soient antiracistes, alliés du féminisme ou des causes LGBTQ+, ou environnementalistes. Bref, tout ce qui est le moindrement progressiste et woke. Pour canceller son adversaire idéologique, on dit « woke ». Et comme ça, il n'y a plus de débat possible. C'est vraiment le point Godwin des nazis.
Oui.
C'est pas un phénomène québécois, comme la plupart des concepts promus par la milice fasciste de l'Empire poubelle, qui agit toujours en tir groupé sur les mêmes marottes plus ou moins imaginaires, que ce soit le grand remplacement ou le racisme anti-blanc. L'anti-wokisme est une importation de l'alt-right trumpiste. Donc, le contenu de nos chroniqueurs soi-disant patriotes, il est 100% états-unien, avec éditoriaux sur le sujet qui se comptent par dizaines, où on décrit le wokisme comme un délire, une maladie mentale, du complotisme de gauche, une secte. On dit même que le wokisme fabrique la haine, ce qui rappelle vaguement le fameux « les vrais racistes, c'est les antiracistes ». Il y a aussi des dizaines de livres très, très alarmistes publiés en 2022, en France, au Québec, un peu partout, contre le péril woke. Moi, je vais vous recommander un seul livre, ce serait « Panique à l'université » de Francis Dupuy-Déry chez Lux Éditeur, dans lequel il y a des données, contrairement aux nombreux éditoriaux du journal. Donc, woke a remplacé Pelton Nuage, Bisounours, Gratuit de guitare, Snowflake, Enverdeur et Islamo-gauchiste dans le vocabulaire des démagogues de droite. Maintenant, qu'est-ce qui va remplacer woke en 2023? Les paris sont ouverts.
Ou peut-être dans notre deuxième partie de quiz, Simon.
Si on a le temps.
Merci beaucoup. Marie-Ève, on va changer d'univers. Allez. On va y aller avec les conservateurs britanniques.
Oui, oui, effectivement, parce que ça s'est succédé.
Bousculé.
Comme pas le temps de le dire. Après le départ dans la honte, il faut le dire, de Boris Johnson. Et la queue entre les deux jambes.
Oh, oui, sous les huées.
Le party animal. Il y a eu Liz Truss, peut-être encore plus hostile aux personnes migrantes que son prédécesseur. Dès son entrée en poste, elle a par exemple promis non seulement de poursuivre, mais de mettre les bouchées doubles en ce qui concerne la mesure phare de l'ancien gouvernement contre l'immigration illégale, c'est-à-dire les expulsions de migrants et migrantes vers le Rwanda. Mmh. Preuve de son zèle sur le sujet, alors qu'elle était secrétaire aux affaires étrangères du Commonwealth et du développement, elle avait été accusée d'avoir sciemment retardé la publication d'un rapport sur les droits de la personne parce qu'il comportait des critiques sur la situation du Rwanda et afin de ne pas mettre en péril cet accord-là.
Mmh.
À peine 4 mois plus tard, c'est Rishi Sunak qui a pris les rênes du pays.
Il est bon, lui, ouais.
À peine nommé, ce Macron britannique s'est empressé d'affirmer sa volonté de rendre impraticable les traversées de la Manche. Il y a du pain sur la planche.
Oui, oui.
Sur la Manche.
Il va mettre du plâtre dans l'eau.
De durcir aussi les conditions pour l'obtention du droit d'asile et de réduire le nombre de candidats retenus. Rishi Sunak, petit-fils d'immigrés indiens, soutient aussi l'accord d'externalisation des demandes d'asile du Rwanda, évidemment.
Évidemment.
C'est d'ailleurs lui qui a nommé ma troisième l'ultra-conservatrice Suella Braverman au ministère de l'Intérieur, oui. dont le rêve, rappelez-vous, qu'elle avait affirmé lors du congrès du Parti conservateur, est, je cite, « voir un avion rempli de demandeurs d'asile en partance pour le Rwanda ».
C'est son rêve, c'est son wet dream.
C'est ce qu'elle a affirmé, oui. Okay. Elle avait aussi affirmé à ce même congrès que les demandeurs d'asile font preuve d'abus en se faisant passer pour des victimes d'esclavage moderne. Cette pro-exit pure souche, comme elle se présente elle-même.
Pro-exit?
Ouais. Oui, OK. Pro-Brexit. Pro-Brexit pure souche. Oups, ça faisait... Fille d'un immigré, elle aussi d'origine indienne, elle s'était présentée, s'était aussi présentée à la candidature au poste de première ministre.
Ah ben oui.
Et quand elle s'est présentée alors comme étant, je cite, la seule capable d'arrêter les petits bateaux de migrants qui accostent sur les côtes anglaises. Je termine en rappelant qu'elle remplace l'infâme Priti Patel, qui a occupé cette fonction pendant un peu plus de 3 ans. Et que les traversées, petite mise à jour de chiffres, irrégulières de la Manche ont atteint plus de 45 000
en 2022,
qui dépasse le record, qui était déjà un record de l'an dernier, qui était de plus de 28 000.
C'est un gouvernement qui se fait beaucoup d'amis, d'ailleurs, qui s'apprête à voter un paquet de lois anti-grève et anti-syndicat. Donc, c'est vraiment le retour des années 80.
Ça va chier.
Et ça va chier en Angleterre, on en parlera en 2023. Ben moi, j'étais allé avec quelque chose de simple, un hommage un peu à une campagne qui s'appelle Un statut pour tous et toutes, qui nous a beaucoup occupés en 2022 à l'émission, en personne comme sur les ondes. Donc, une campagne qui existe depuis plusieurs années, mais qui a été vraiment revigorée en 2022, qui est portée par Solidarité sans frontières au Québec et par le Migrants Rights Networks dans l'ensemble du Canada. On se rappelle, le 17 juillet, il y a eu la marche annuelle à Montréal, comme il y a chaque année. Le 18 septembre, journée d'action pan-canadienne, qui a eu lieu dans 13 villes à travers le pays et qui a réuni plus de 5000 personnes. Le 6 novembre, c'était la journée d'action québécoise avec plein d'organisations pour la régularisation. C'était organisé par le CTI, le Centre des travailleurs immigrants. En novembre aussi, 1000 personnes du milieu de l'enseignement ont envoyé une lettre au ministre Fraser et au premier ministre Trudeau pour demander le dépôt d'un programme qu'on rappelle vouloir complet, large, inclusif et permanent. Les appuis se sont multipliés au cours de la dernière année, comme nous l'a indiqué Adiane, qui est venue en entrevue à l'émission cet automne. Plus de 500 organisations de la société civile se sont jointes à l'appel, et même le Toronto Star et même le Devoir ont appuyé la demande dans des éditoriaux. On parle toujours d'environ 1,7 million de personnes sans statut permanent au pays, demandeurs d'asile, travailleurs temporaires, étudiants internationaux. Le plan de régularisation devait être déposé à l'automne 2022, mais surprise, il est toujours pas là. Qu'est-ce qui arrive avec les libéraux fédéraux? On devrait s'inquiéter.
D'après moi, ça va venir en même temps que l'entente sur les tiapis.
Oui, puis que le budget. Pour rappel, en avril 2021, le fédéral a annoncé l'octroi de la résidence permanente à 90 000 travailleurs étrangers temporaires et étudiants étrangers qui se trouvaient au Canada, sauf au Québec, évidemment, vous savez pourquoi, et qui œuvraient dans certains domaines d'emploi et d'études précis. Ouais. Toujours en 2021, on se rappelle la complexité et l'étroitesse du programme pour les anges gardiens de la santé. Et ça, sans parler des bâtons que le gouvernement caquiste va peut-être mettre dans les roues du futur. Ben, pas peut-être, va mettre dans les roues du futur programme. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres, on est loin du 1,7 million de personnes, mais on espère quand même quelque chose au début 2023. Et peut-être dire aussi, dans les luttes aussi reliées à Solidarité sans frontières et les migrants, il y a la nouvelle prison pour migrants à Laval qui a finalement ouverte à la fin de l'année, malheureusement, qui s'appelle le Centre de prévention de l'immigration. Donc ça, c'est une lutte qui a été assez importante depuis 3 ans, mais qui a été perdue, disons, pour l'instant.
Ouais, puis on en reparlera parce qu'il y a déjà des témoignages aussi, des reportages qui
sortent. Il y a eu des articles dans les journaux, hein?
Ouais, c'est ça, sur des gens qui parlent des détenus de l'intérieur, là, qui parlent de comment c'est, en fait.
La nouvelle prison dorée.
Oui,
c'était mentionné. Donc voilà, c'était notre catégorie personnalité marquante ou organisation marquante, anti-woke, ministre britannique et la campagne Un statut pour tous et toutes. On y va, Simon, avec le choix de ta pièce?
Ben, j'hésitais entre Traba d'Ebidio Sound Machine ou Joël Martel et sa chanson sur le convoi de la liberté Nazi Hippies Fuck Off. J'ai plutôt choisi une parution de l'été dernier du groupe indie brunswickois Motherhood. Très bon band. En revisitant nos banques de musique, je me suis rendu compte qu'on n'en avait pas fait jouer en 2022.
C'est vrai.
Je saute sur l'occasion. C'est un genre de math rock un peu irrévérencieux. Ils se décrivent, ils décrivent leur son plutôt comme du cowpunk sans être complètement stone ou du dust rock sans la bouche sèche. Motherhood, c'est un trio, deux hommes et une femme de Fredericton. Ils sont avec Bon Sound et leur album paru en juin s'appelle Winded. C'est leur 5e en 8 ans. Très bon dans son ensemble et on va écouter la pièce Crowley 2.
Allons-y. Toujours à l'émission Les Apatrides Anonymes, notre rétrospective, revue, rétrospective, perspective, émission spéciale de 90 minutes avec Marie-Ève, Simon et Mathieu en direct des studios de Choc en ce jeudi 12 janvier. Donc, on se sépare, ça fait une couple d'années qu'on fait ça, on se sépare des enjeux sur le racisme, sur l'immigration et les enjeux autochtones dans un court segment chacun, un petit résumé. Juste vous dire qu'on vient d'entendre Motherhood, la pièce Crawley One. Et c'est un groupe du Nouveau-Brunswick.
Et non Crawley 2, comme j'ai dit.
Oui. Mais il y a plein de Crawley sur l'album. Allez voir ça. Donc, c'est sorti il y a pas cette année. Évidemment, en 2022. Donc, moi, je commence avec enjeu racisme. Je le parlais des institutions au Québec, au Canada. Je lui ai fait un petit résumé de certains événements que vous allez reconnaître pour la plupart. Je voulais évidemment commencer avec celui qui est arrivé quasiment le dernier dans l'année, c'est-à-dire le fameux jugement sur les interpellations aléatoires de la Cour supérieure du Québec, qui a été finalement porté en appel par le gouvernement caquiste. Donc, ça va se passer en quelque part en 2023. Le SPVM, donc, à Montréal, a continué à s'embourber dans sa culture de profilage et de discrimination. Il y a eu plusieurs rapports qui ont continué à en parler. On a un nouveau sauveur comme chef de police qui est déjà dans la barre depuis quelques semaines. Il s'appelle Fadi Daguerre. Donc, on a bien hâte de rire en 2023, de rire jaune par rapport au SPVM, hein, Simon?
Ben, il est pas si woke que ça, finalement.
Ouf, je sais pas. En tout cas, ça suit. Mais il a appuyé l'appel, d'ailleurs, sur les interpellations. Ça, c'est pas très woke, là, mettons. sinon, François Ducas de Repentigny, qui a gagné contre la police et la ville de Repentigny pour profilage racial. Il a gagné devant le tribunal des droits de la personne après que la ville ait contesté la commission, la décision de la commission. Il y a eu un maigre 8 000 $. On s'entend que c'est pas comme d'autres qui ont eu pas mal plus que ça dans des situations pas mal moins pires. Puis il y a eu plein d'autres cas de profilage qui ont continué à défrayer la manchette un peu partout au Canada durant l'année. Je les nommerai pas tous et toutes. Il y a eu quand même plusieurs médias grand public qui ont parlé de profilage racial, des dossiers importants dans Le Devoir, enquête de Radio-Canada, donc ça c'est toujours intéressant aussi. Sinon, ben le principe de Joyce qui est toujours ignoré, rejeté par la CAQ, en lien entre autres avec le racisme systémique. Les fameuses formations de sensibilisation et de sécurisation culturelle qui ont été boudées dans le réseau de la santé au Québec en bonne partie et au fédéral en général.
Oui.
Autant Service correctionnel Canada que dans la fonction publique en général, on en a parlé. La loi 21, ben il y a eu les audiences de la Cour d'appel à l'automne dernier, donc quelque chose en 2023. La loi 96, il y a eu un petit jugement en 2022 qui a suspendu deux articles sur la traduction des documents juridiques. C'est un peu technique. Mais il y a plein d'autres contestations qui s'en viennent sur en lien avec les commissions scolaires anglophones, les langues autochtones, donc ça va être à suivre aussi. Les fonctionnaires noirs qui ont fait un recours collectif au fédéral et une plainte à l'ONU pour racisme systémique depuis les années 70. Les étudiants africains francophones qui étaient vraiment mis de côté par Immigration Canada. Et je vous lis l'admission du ministère. Immigration Canada reconnaît qu'il y a du racisme au Canada ainsi qu'au sein de sa propre organisation. C'est ce qu'ils ont dit dans un document déposé à l'automne.
Mais ça commence comme ça, faut le reconnaître.
Oui. On reconnaît que... Et sinon, l'année a fini avec un jeune homme noir qui est mort lors d'une intervention des gardiens à la prison de Bordeaux à Montréal. Il y a des enquêtes de réclamer, donc il y a ça qui va être dans l'actualité aussi. Donc, je voulais vous nommer quelques trucs que vous avez peut-être oubliés pour certains sur le racisme des institutions au Québec et au Canada, surtout au Québec. Simon, je te passe la parole.
Ben ça, c'est en droite ligne avec ce que tu viens de dire. Je vais parler de la visibilité autochtone. Je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que les communautés comme les individus, ou même les enjeux et la culture autochtone sont beaucoup plus présents.
Mm-hmm.
Séries télé, fiction ou documentaires, des reportages dans les médias écrits, dans la littérature. Je pense à Michel Jean qui fracasse des records dans les universités. Dans les musées, je pense à Daphné, le premier centre d'artistes autochtones autogérés à Montréal, qui a ouvert pendant la pandémie, donc qui a connu en 2022 sa première vraie année de fonctionnement.
Mm-hmm.
Forte présence autochtone internationale à la COP15, des représentants du Brésil, de Nouvelle-Zélande, d'un peu partout. Par contre, aucun des groupes participants n'a obtenu le statut de décideur. Donc, c'était juste la représentation.
Oui, observation, représentation, oui.
Même le pape est venu visiter les Autochtones.
Ah oui, je ne parlais plus.
Ouais, je tenais à le dire parce que nous, on parle de nouvelles un petit peu plus alternatives.
Oui, les faits alternatifs, oui.
Pour poursuivre sur la visibilité, on peut aussi penser à la disque avec un prix réservé aux artistes autochtones ou à la musique en général. Je ne sais pas si c'est l'effet choc, mais moi, j'ai jamais entendu autant de musique autochtone de ma vie en rap, en chanson, en électro. On peut aussi penser à l'Assemblée nationale avec la toute première députée autochtone qui, malheureusement, elle est...
CAQ, yes.
Ministre de la CAQ, oui.
Oui, c'est ça. Donc, et ben en tout cas, mais malgré toute cette belle visibilité, est-ce que les gens connaissent pour autant les réalités autochtones? Combien de Canadiens sont capables de nommer, ben, même de dire combien il y a de Premières Nations au Canada ou encore pire, de les nommer.
Ouais.
Donc sûrement qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, sans compter tout ce que tu viens de mentionner, là, ce qui est le racisme systémique,
le profilage,
les discriminations, etc., ou les statistiques tout simplement de pauvreté. Donc, encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir prétendre à une vraie réconciliation, mais du strict point de vue de la visibilité, c'est ce que je tenais à souligner, parce qu'en 2022, je pense qu'on peut, on peut plus ignorer les Premières Nations et les Inuits comme on le faisait avant. Il y a enfin une présence autochtone dans nos vies.
Puis à l'émission, on a contribué à beaucoup, beaucoup parler des enjeux autochtones, donc la visibilité, ça se fait un peu partout. Hein?
Ben oui, ça se rend même, imagine, ça se rend jusqu'à nous. Hein?
Exactement, oui, on est tellement loin. Marie-Ève, immigration et logement.
Oui, moi, c'est ce qui, pour moi, en tout cas, a été la question qui a le plus marqué 2022, mais qui va aussi rester à surveiller beaucoup en 2023. En novembre, par exemple, je vous avais parlé du nombre grandissant de demandeurs d'asile qui se retrouvent en situation d'itinérance, faute de place dans les centres d'hébergement temporaire, mais aussi de disponibilité de logement à Montréal.
Mm-hmm.
La situation est devenue tellement intenable qu'on apprenait en début de semaine, là, dans le journal Métro, que depuis juin dernier, Immigration Canada oblige celles et ceux qui n'arrivent pas à fournir une adresse au Québec à aller s'installer ailleurs au pays.
Ouais.
Depuis 6 mois, donc, le fédéral a transféré 2500 demandeurs d'asile du Québec vers l'Ontario, la grande majorité à Niagara Falls, près de 1500, ensuite à Cornwall et à Ottawa. Et si, selon Immigration Canada, les transferts se font de façon volontaire, plusieurs réfugiés soutiennent le contraire. Je vous invite à aller lire là-dessus là, pour plus de détails, puis les lire eux, ces réfugiés. L'article du Métro du 8 janvier qui s'intitule « Faute de logement des demandeurs d'asile forcés de quitter Montréal
mm-hmm. ».
Mais comme je disais, il n'y a pas juste au Canada où la question du logement est devenue criante et source de tension. Par exemple, en Grèce, le ministère de l'Immigration a annoncé, juste à la veille de 2023, la fin d'un programme de logement pour les demandeurs d'asile les plus vulnérables, c'est-à-dire des familles nombreuses, les personnes qui vivent avec un handicap et les victimes de torture. Et ce, malgré le financement du programme assuré jusqu'en 2027 par l'Union européenne.
Okay.
Mais c'est ça. Puis déjà en décembre 2021, le programme disposait quand même d'une capacité de plus de 23 250 places de logement, ce qui est énorme. Quand même,
mm-hmm.
à peine 2 mois plus tard, c'est-à-dire début 2022, le gouvernement annonçait qu'au lieu d'étendre le programme, les places seraient réduites à 10 000. Puis là, ben, ils viennent de complètement couper le programme. Et ça, ben, c'est sans compter que partout dans le monde, des centaines de milliers de migrants irréguliers sont parqués pendant des mois, parfois des années, dans des camps ou des centres d'hébergement surpeuplés. On en a parlé au cours de l'année.
Ouais.
Des centres d'hébergement surpeuplés, insalubres, souvent isolés aussi. En attente que leur dossier soit finalement traité par des autorités de l'immigration débordées et, disons-le, peu pressées de les accepter sur leur territoire. Or, offrir un hébergement pérenne et dans les villes continue à contribuer à rétablir un sentiment de normalité, si on veut, et permet un meilleur accès aux services, entre autres à l'éducation et à la santé. Donc, pour moi, ça va être vraiment aussi un enjeu à surveiller en 2023.
Ouais, puis t'as pas parlé aussi des refuges pour itinérants où il y a plusieurs...
Non, ben ça, personne... j'en ai parlé au début là, de mon contexte parce que j'en avais parlé
c'est
en
ça.
Novembre.
Mais ils en ont parlé beaucoup les dernières semaines à cause de l'hiver, donc on pourra en parler en 2023. Merci Marie-Ève. Donc, je vous rappelle que dans la section enjeux, racisme, enjeux de racisme, d'immigration et enjeux autochtones, il y avait racisme des institutions Québec-Canada, visibilité autochtone, et Marie-Ève nous parlait d'immigration et logement. On y voit quelques notes de musique, on vous revient avec les citations racistes. Toujours notre spécial début d'année, donc rétrospective 2022, perspective 2023. Notre dernière catégorie à 3, donc citation raciste de 2022. Est-ce que Marie-Ève, t'es prête à reprendre le crachoir?
Oui, pour ma part, j'ai choisi des déclarations qu'on a pas mal oubliées de deux personnes dans l'entourage du PQ, dont on n'a d'ailleurs pas beaucoup entendu parler cette année, le PQ. Je commence avec la sortie publique de l'ancien chef Jean-François Lisée à propos d'une publicité numérique de HEC Montréal.
Ah oui.
Qui faisait la promotion d'un programme international qui permet de commencer un baccalauréat à Alger et de conclure le tout à Montréal.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce qui a fait sortir Lisée de ses gants? La publicité était pourtant rédigée dans un français impeccable
oui.
et ne contenait aucune expression du genre « YOLO les jeunes
!» YOLO.
Eh bien, le court texte était surmonté de la photo d'une jeune femme souriante portant un hijab. Ben oui, il n'en fallait pas plus pour que JFL s'étouffe avec sa gorgée de lait pur blanc et se précipite sur Twitter pour écrire « HEC Montréal a choisi un signe religieux misogyne pour recruter des étudiantes d'Algérie. Avis aux jeunes Algériennes qui tentent de résister à la pression des imams et des intégristes. HEC Montréal n'est pas votre allié. Oh que non, c'est Jean-François Lisée, l'allié des femmes algériennes.
Oui, tout à fait. Il est bon.
Hey, belle voix, Marie-Ève.
Faut dire que le PQ, il aime pas ça, le hijab. Pendant la campagne électorale provinciale de l'automne, Le Devoir a révélé diverses publications faites au cours des années par Lynn Jubainville, cette frétillante candidate dans la circonscription lavalloise de Sainte-Rose. Je me contente de vous citer la plus, disons, fleurie de ces...
nombreuses citations.
Oui, oui, qui est extraite d'un commentaire laissé sous un article du Devoir à propos du Ramadan en 2011.
Oh!
S'intégrer au Québec grâce à l'islam. Non, mais ça va pas. L'islam, ce n'est pas nous. On n'a rien à voir là-dedans. On ne reconnaît pas ça. Il y a moins de 5 ans, une femme voilée sur la rue de Sainte-Catherine était aussi exotique qu'un canari malinois.
Ben voyons.
Oh, OK, Maria, ben merci Alors, pour les voilà. voix. Merci pour des voix. Ben, c'est dur, va être dur à battre. Simon, vas-y.
Ben écoute, moi je vais vous parler de Gianni Infantino, donc je peux prendre
c'est risqué, ça c'est risqué ça, ouais.
Donc 2022, c'était l'année du Mondial, donc disons que le Qatar a fait les choses en grand. Estimation de 6500 ouvriers morts sur les chantiers de la Coupe du Monde, ça c'est pas juste en 2022 évidemment.
Ouais.
Surtout des travailleurs étrangers en provenance de l'Inde, du Sri Lanka, du Pakistan, du Népal et du Bangladesh. Mais le champion du monde, non, ce n'est pas l'Argentine, c'est le président de la FIFA en personne, Gianni Infantino, nouveau résident du Qatar, d'ancienneté suisse. En termes de situation douteuse, il a fait ses forts, le monsieur. Donc, tout d'abord, pour justifier son intention de tenir des Coupes du monde tous les 2 ans et non seulement 4 ans, il a dit que ça empêcherait les réfugiés de fuir vers l'Europe. La citation exacte... OK, je prends un accent, là. Ça donnerait de l'espoir aux Africains. Non, c'est pas ça. Pas d'accent. Ça donnerait de l'espoir aux Africains afin qu'ils n'aient pas besoin de traverser la Méditerranée pour trouver une vie meilleure ou plus probablement la mort dans la mer.
Ah ben oui.
Chercher la logique. Donc j'imagine que quand on regarde un match de foot, ça nous fait oublier les épidémies, la violence, la pauvreté ou la famine. Donc non. Bravo Gianni.
On peut mourir sur un chantier, c'est ça.
Ben oui, mais ça, c'est pas les Africains, ça.
Ouais.
En tout cas.
Ouais, ouais, OK, excuse. Ouais.
Donc, Gianni, qui instrumentalise la misère des migrants pour pouvoir faire 2 fois plus d'argent avec des droits de pub et de télévision. Sinon, juste avant le début de la Coupe du Monde, je sais pas s'il avait déjà commencé à sabrer le champagne, il a déclaré « Aujourd'hui, je me sens Qatari, arabe, africain, homosexuel, handicapé et travailleur migrant. » Et comme c'était pas assez délirant, il a ajouté quelques minutes plus tard qu'il se sentait femme aussi.
Ouais.
Donc, merci Gianni, tu es très divertissant.
Oui, et il va être réélu sûrement dans quelques semaines à la tête de la FIFA.
Ah, je savais pas que c'était une élection.
Une élection, faut le dire vite, hein, ouais. C'est sûr. Moi, je vais y aller avec, j'ai appelé ça l'hexagone de la haine, parce qu'il y a quelques personnes qui disent des choses un peu drôle en France de temps en temps. L'Assemblée nationale a décidé d'exclure durant 15 jours le député RN, Rassemblement national, Grégoire de Fournasse, auteur le 3 novembre de propos dans l'hémicycle jugé raciste. C'est la plus lourde sanction disciplinaire possible, là, expulsé 15 jours. Monsieur de Fournasse a reconnu avoir lancé « Qu'il retourne en Afrique » lors d'une intervention de l'élu La France insoumise, Carlos Martin Bilongo, qui s'exprimait sur le drame de l'immigration clandestine pendant la séance de questions. Le député de Gironde a ensuite catégoriquement nié tout caractère raciste, assurant parler du bateau humanitaire Ocean Viking bloqué en mer avec 234 migrants et pas du député Bilongo élu de Val-d'Oise. C'est moins raciste, évidemment.
C'est juste 233 personnes.
C'est ça. L'incident a provoqué une vague d'indignation. Il avait entraîné la fin de la période de questions à ce moment-là, ce qui est assez rare. Donc, voilà, ça, c'est un député Rassemblement national. Et l'autre citation que j'avais, qui est courte, l'ancien directeur de l'information de TF1 et qui est aussi ancien dirigeant de la chaîne LCI et ex-président du club de foot de l'Olympique de Marseille, a tenu des propos anti-musulmans sur le plateau de l'émission de CNews, La
ça,
Belle Équipe.
Ça, c'est Bolloré?
Non. J'ai même pas son nom, c'est vrai,
ouais.
C'est bien sûr. Je l'ai pas noté.
Oui, c'est Bolloré.
Non, Bolloré, c'est le propriétaire.
Ah ouais.
Donc, c'est l'ancien, l'ancien directeur de l'information de TF1. Ah. C'est ça l'important à retenir. Sur le plateau de l'émission La Belle Équipe en décembre dernier, je le cite, les musulmans, ils s'en foutent de la République. Ils ne savent même pas que ce mot veut dire, a-t-il déclaré lors d'un débat sur la délinquance juvénile.
C'est
donc,
chic.
Un directeur, c'est comme si le directeur d'information de TVA ou de Radio-Canada tenait des propos comme ça, c'est fantastique. Donc voilà mes citations pour l'Hexagone de la haine. Et Simon, c'était le président de la FIFA, toi, hein?
Gianni Infantino.
Voilà. Et Marie-Ève, c'était...
C'était Jean-François Le Piquet!
Parfait, mesdames et messieurs. Donc, on y va avec notre troisième pièce marquante de l'année. C'est Marie-Ève qui l'a choisie, je te laisse la présenter.
On va écouter Tania Tagac, qui est une... Simon, tu parlais de l'effervescence culturelle.
Ouais.
Voilà. Donc, avec sa pièce Colonizer, c'est une pièce qu'on avait déjà fait jouer, mais ce que vous allez entendre, c'est une version remixée par le groupe de Hallucination, qui est un duo, en fait, qui est formé par deux membres, là, de A Tribe Called Red.
Ah oui.
Et okay. Puis, la pièce est tirée d'un remix complet par différents artistes de l'album Tongues et qui a été réintitulé pour l'occasion North Star Remixes et qui est sorti en juillet dernier. Alors, on écoute ça maintenant.
Donc, c'était la pièce de Tania Tagac, Marie-Ève.
Oui, ben malheureusement, finalement, c'était pas celle remixée par The Hallucination. Il y a une petite erreur de fichier. Mais c'est pas grave, on vous la fera jouer une autre fois. Puis de toute façon, ça bûche quand même pas mal.
C'est aussi une très bonne pièce, Colonizer, d'ailleurs.
Voilà. Ouais.
Donc, merci Marie-Ève. Je passe le micro à Simon pour son micro principal sur les perspectives 2023.
Oui, juste dire, c'est mon erreur, la toune, je suis désolé.
Oui, oui, c'est bon.
C'est pas grave, on a fait plus des erreurs.
On la fera jouer dans les perspectives 2023. Donc, écoutez, on se donne quelques minutes pour cibler les enjeux à la fois locaux et les régions du monde qu'on va surveiller en 2023. Donc, on a déjà parlé de beaucoup de sujets, j'ai rayé quelques affaires parce que c'est évident que dans l'esprit des gens, je pense qu'on va continuer à suivre des dossiers qui sont déjà en cours, si on veut.
Actif, oui.
Donc, c'est pas facile à faire comme choix. Il se passe tellement de choses. On va avoir les yeux tout le tour de la tête. Je commence avec les nouveaux gouvernements à surveiller. Tout d'abord, Brésil. On est vraiment dans l'actualité. Là. Lula vient tout juste d'être assermenté malgré les événements de Brasilia, malgré Bolsonaro qui, exactement comme Trump, crie à la fraude électorale depuis plusieurs mois avant même le premier tour. Lula va quand même installer son pouvoir, ça, il n'y a vraiment aucun doute à avoir, et ça aura peut-être, à moyen terme, c'est ce qu'on va surveiller, des impacts, qui sait, positifs, possibles, notamment sur les communautés autochtones, noires et LGBTQ.
PQ?
sur Jean-François Lisée! Le Brésil est aussi un lieu de transit pour plusieurs migrants, entre autres haïtiens, qui l'ont pas eu facile dans les dernières années. Autre dossier qu'on va regarder en 2023.
Ouais.
On va surveiller le Pérou, qui vit une crise sociale et politique assez grave avec une nouvelle présidente presque autoproclamée. C'est pas évident à suivre comme histoire.
C'était la vice-présidente avant que l'autre soit destituée.
Ouais, c'est ça. C'est Mme Dina Boluarte. Elle a accédé au pouvoir d'une manière... une bonne partie de la population juge frauduleuse en accusant de sédition. C'est ça, l'ancien président Pedro Castillo, en le mettant en prison et en nommant au cabinet sa garde rapprochée. Donc, un épisode politique péruvien un peu rocambolesque. Jusqu'à maintenant, la mobilisation citoyenne ne cesse d'augmenter, donc ça va vraiment à court terme, là, qu'on va devoir surveiller ça, peut-être lors même de la prochaine émission. On s'en va à 12 000 km de là, on en a parlé tantôt, la nouvelle coalition menée par Netanyahou en Israël, la plus d'extrême droite jamais observée, avec des ministres qui affirment ouvertement souhaiter la suppression pure et simple de la Palestine et la création d'un grand Israël qui annexerait des parties de l'Égypte, de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie. Donc, beau programme.
Oui, oui, oui.
L'année 2023 a commencé avec le coup d'éclat du nouveau ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, qui s'est rendu sans autorisation sur l'esplanade des mosquées, ce qui est considéré comme un affront diplomatique très grave par les Palestiniens. Genre de provocation qui avait été à la base de la seconde intifada suite à la visite surprise d'Ariel Sharon de cette même esplanade des mosquées en 2005. Donc voilà, pour l'instant, ça s'est pas encore embrasé, mais disons que ça regarde vraiment pas bien pour les relations Palestine-Israël en 2023. Autre situation politique, autre gouvernement surveillant en 2023, les gouvernements militaires dits de transition en Afrique de l'Ouest suite à des coups d'État souvent appuyés par les paramilitaires russes du groupe Wagner. On pense au Mali, à la Guinée et au Burkina Faso, pas moins de 2 coups d'État en 2022 au Burkina, et avec souvent une opinion publique locale assez favorable. Grande tendance qu'on constate et qui va probablement s'alourdir en 2023, c'est le glissement du contrôle des institutions et des ressources par les anciennes métropoles coloniales, surtout la France, vers des intérêts encore plus privés ou opaques qui sont de plus en plus chinois ou russes ou on ne le sait pas. Beaucoup de minéraux dits critiques, terme qu'on va entendre ad nauseam dans les 100 prochaines années, jusqu'à la fin du monde. Des métaux de plus en plus convoités pour nos appareils mobiles et pour l'électrification des transports, pour les panneaux solaires, etc. Donc, les luttes pour la mainmise sur ces ressources-là, donc la violence va s'accentuer dans les années à venir dans les régions où on trouve ces fameux minéraux critiques. Avant de finir avec États-Unis, Canada, la Turquie, qui, elle, semble vouloir se débarrasser des millions de migrants, entre autres Syriens, qui sont actuellement sur son territoire. Donc, difficile de prédire ce qui va se passer avec ça en 2023.
Oui, elle veut les envoyer, entre autres, dans le nord de la Syrie, en enlevant les Kurdes de là.
Oui, dans des régions où, évidemment, le gouvernement syrien qui est affaibli n'a pas nécessairement de contrôle.
C'est ça, c'est les Kurdes qui sont là. Ouais.
Exactement.
Ouais.
Donc, États-Unis, ce qui marque le changement d'année, c'est la saga judiciaire autour du titre 42, qui est une disposition législative qui permet d'expulser les migrants sans procédure. C'était utilisé massivement à la frontière avec le Mexique. Ça avait été promulgué par l'administration Trump sous des prétextes sanitaires en lien avec la COVID. Et ça avait été maintenu jusqu'à maintenant par l'administration Biden, expulsant, malgré son discours plus bienveillant, des milliers de Mexicains, d'Haïtiens, de Vénézuéliens, de Salvadoriens, etc. Et ce, malgré que la plupart des pays d'origine refusent toujours de reprendre leurs ressortissants. Donc, en 2023, on surveille les audiences de la Cour suprême américaine sur le titre 42 qui commence en février. On va regarder ce que ça donne, l'accord entre Biden et Ariel Henry, premier ministre haïtien, qui lui a accepté de reprendre en Haïti les migrants refusés malgré le climat chaotique.
Ah, il est bon, Ariel Henry, hein? Ouais.
Ben, pff, y a-tu un cerveau là-dedans? Certains disent que l'accord a été signé en échange d'être maintenu au pouvoir par Washington.
Voilà.
Gagne de mauvaise langue. On va aussi regarder en 2023 la pression que Washington va exercer sur les autres gouvernements concernés par ces vagues migratoires qui arrivent à pied à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On va regarder plein de choses aux États-Unis en 2023 et tout ce qui se passe aussi à l'intérieur du territoire, les réformes policières possible. Le racisme, les programmes de naturalisation qui vont peut-être inspirer Trudeau à finalement faire une annonce. On va observer les négociations entre Ottawa et Washington sur la réforme de l'entente des tiers pays sûrs. On en a parlé tantôt, qui est à la base des afflux de migrants au chemin Roxham, où un premier migrant mort a été découvert cette semaine. Mathieu, tu avais son nom, je crois.
Oui, j'ai son nom, c'est Fritinel Richard.
OK, ben merci. Paix à son âme. C'était beaucoup dans les médias, il est mort de froid. Mais ce qui a moins fait les manchettes, c'est qu'il était le deuxième migrant mort en deux semaines. Le premier était décédé en cellule le 25 décembre au centre de détention pour migrants de la Colombie-Britannique.
Mm-hmm.
Mort qui va rester, elle, anonyme, puisque l'Agence des services frontaliers n'a rendu public aucune information.
Ouais.
À part l'entente des tiers pays sûrs, j'ai ciblé un autre enjeu fédéral à surveiller, c'est les ratés et les retards dans le traitement des demandes de plusieurs statuts différents. Que ce soit les délais de traitement hallucinants pour, entre autres, les résidences permanentes, les réunifications familiales. Ça se compte parfois en années où le dossier est toujours, on a parlé aussi tantôt, dossier non réglé des étudiants africains acceptés par Québec mais refusés par Ottawa sur la base d'une intelligence artificielle raciste.
Oui, c'est un bon résumé, Simon.
Oui, puis on n'est pas dans la science-fiction, on est dans la réalité. Du côté provincial, je termine là-dessus. En 2023, on va regarder comment Legault souhaite commencer à mettre en œuvre sa politique plutôt irréaliste d'immigrants économiques sélectionnés 100% francophones,
oui.
Ce qui, à notre avis, constituait surtout une promesse électorale. Donc, on verra, comme on dit. On va suivre aussi au Québec l'appel de Legault de la décision de la Cour supérieure d'interdire les interpellations aléatoires, une des premières décisions de ce gouvernement nouvellement réélu. Et on va regarder la question du logement, évidemment. On en parle souvent, on en parlait aussi tantôt, logement temporaire ou permanent pour les demandeurs d'asile, situation qui est très problématique actuellement. Donc, entre autres choses qu'on va regarder.
Et Simon, il va y avoir une consultation sur les seuils d'immigration parce qu'ils ont renouvelé 50 000 pour 2023. Mais à chaque 4 ans, il doit faire une consultation parlementaire et publique sur les seuils pour les 4 prochaines années au Québec. Donc, il va y avoir ça cette année aussi.
Donc, le conseil du patronat sera peut-être invité.
Oui, pour parler de 100 000 par année.
Oui.
Donc, voilà. Merci beaucoup, Simon, pour les perspectives nationales et internationales 2023. On va continuer avec Marie-Ève, le quiz! J'ai 2 questions rétrospectives et 3 questions sur des prédictions, mesdames et messies. Je vais commencer avec la 7e dans les retours sur l'année. Pourquoi le Festival international de la chanson de Grimbé a-t-il exclu le rappeur Anishinaabe Samian de sa programmation? J'ai 3 choix.
Mm-hmm.
Parce qu'il refusait de se soumettre au règlement du concours le forçant à présenter 80% de contenu francophone. Parce qu'il appuyait la lutte des Wet'suwet'en. Parce qu'il est trop présent dans les médias québécois.
Ben oui.
Marie-Ève?
Parce que le jury comprend pas les paroles de ses chansons?
C'est à peu près ça. C'est le choix A sur le 80%. Simon, t'avais quoi comme réponse?
Ben moi, j'avais parce qu'il connaît pas Véronique Cloutier.
Ah, écoute, c'est bon. Bonne blague quand même. Donc, Samian, je le cite. « Je comprends qu'on veut avoir des festivals francophones. Je comprends le combat de la langue française par rapport à l'anglais, par exemple. Mais les langues autochtones ne sont pas menaçantes. Elles sont menacées. »
Voilà.
Donc, c'est
bien dit.
Une bonne synthèse. Finalement, il a pu jouer, il a pu chanter, finalement. Je pense qu'ils sont arrivés à un accord, mais ça a été un événement important dans la visibilité autochtone, entre autres.
Effectivement.
8e question. À quel endroit d'un imposant pétrolier, 3 migrants du Nigeria se sont-ils cachés pendant 11 jours pour se rendre aux Canaries? Premier choix, dans 3 barils de pétrole. 2e choix, sur le gouvernail du paquebot. ou troisième choix dans la cabine du capitaine? Simon.
Ben, c'est des excellents choix, mais je connais déjà la réponse. Donc, je vais laisser Marie-Ève.
Mais moi aussi, je la connais.
Ben oui, on en a parlé.
Mais je pourrais être dans les toilettes.
Oh! En première classe.
Et non. Donc, sur le gouvernail du paquebot pendant 11 jours, c'est le troisième cas similaire connu depuis 2020 sur cette route des Canaries.
Ah oui, c'est ça.
Quand même. Première prédiction. En 2023, quel membre de la CAQ, Éric Duhaime, va-t-il débaucher pour rejoindre les rangs de son parti après son grand succès de son opération Claire Samson? Premier choix, Jean Boulet, ministre du Travail.
Ben, il est ministre déjà.
Mais non, mais là, il va être recruté par...
Par la CAQ. Par les conservateurs. Oui, c'est ça. Simon, mélange-nous pas, là. Choix 2, Yann Lafrenière, ministre des Relations avec les Autochtones. Choix C, Catéry Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi. Ou choix D, Pierre Fitzgibbon, ministre de toutes. Mais il peut y avoir une autre réponse. Quel ministre de la CAQ va être débauché par Éric Duhaime, Simon?
Ah, ben c'est ça. Moi, j'avais compris que c'était pas des ministres. Des gens qui étaient déçus de pas avoir été nommés ministres. Donc, j'avais choisi Sylvie Damour, ancienne ministre des Affaires autochtones, qui a déjà dit que les stérilisations forcées de femmes autochtones, ça n'existe pas au Québec.
OK. T'as vraiment lu la question dans ta tête complètement.
Ben oui, ça m'arrive.
Marie-Ève?
Ben moi, j'avais déjà... sans savoir ton choix de réponse, moi, j'avais dit Jean Boulet.
Ah, ben voilà. C'était la réponse facile. Et on n'a même pas eu besoin de parler de sa citation raciste.
De son œuvre, oui.
En 2023, quelle nouvelle technologie va utiliser l'agence Frontex pour détecter la présence de bateaux de migrants en mer Méditerranée afin de transférer l'information à ses amis libyens? J'ai seulement deux choix. Installer des caméras sur les dauphins ou louer les jets privés des milliardaires pour faire de la surveillance. Simon.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup en Méditerranée, mais moi, je disais un nouveau modèle de torpille kamikaze à tête chercheuse nommé Zemmour X2.
Ah, OK. Marie-Ève?
Moi, je suis à peu près aussi drastique que Simon. C'était d'installer les mines antipersonnelles sur les bouées.
C'est...
On va avoir des belles images.
Moi, je pense que ça peut être une idée de Madame Braverman, là, la nouvelle swell.
Ouais, pourrait atteindre les yachts.
Les yachts. OK, c'est du sérieux. Et dernière question, prédiction. On peut le dire à l'unanimité, la réponse.
Ben oui.
En 2023, quelle province ne va pas mettre fin à son contrat de détention des personnes migrantes avec l'Agence des services frontaliers du Canada? La réponse?
Québec.
Je vous rappelle que la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba ont annoncé leur intention de mettre fin à ces contrats en 2022 et qu'une campagne qui s'appelle, entre autres, Bienvenue au Canada, avec Human Rights Watch et Amnesty International qui se poursuit donc pour demander à toutes les provinces de mettre fin à la détention des migrants dans des prisons provinciales. Provision provinciale dans chaque province. Donc, voilà pour ce quiz. On a eu le temps de toutes les passer, les questions. C'est fantastique. C'est merveilleux. Marie-Ève, on va y aller avec quelques notes de musique et ensuite, on fera notre outro ensemble. Donc, ça achève tranquillement cette émission spéciale de rétrospective et perspective des apatrides anonymes. Début 2023, en janvier, on est le 12 janvier. On n'est pas pressé pour une fois. On a du temps tranquille pour finir l'émission.
On pourrait faire une rétrospective de l'émission.
Oui. On pourrait notre propre évaluation individuelle, comment on s'est senti.
Ben, je nous donne un 8.
8 sur 20?
Ouais.
OK. Marie-Ève, un peu plus que ça, j'espère. Donc, j'ai le temps justement d'annoncer, Marie-Ève m'avait rappelé d'annoncer la vigile qui a lieu ce dimanche 15 janvier, 15h30, devant le complexe Guy Favreau, où il y a les bureaux d'Immigration Canada à Montréal, à la mémoire de Fritinelle Richard, dont a parlé Simon tantôt, qui est mort près du chemin Roxham, un petit peu... le 5 janvier dernier, non, c'était même pas avant les fêtes. Donc, on invite les gens à honorer sa mémoire, qui est quelqu'un qu'on connaissait pas, mais qui est un migrant d'origine haïtienne. Et c'est en plus quelques jours après qu'un autre migrant soit décédé à Surrey, comme tu disais. Donc, voilà, c'est à 15h30 le 15 janvier dans la région de Montréal. Je sais pas s'il y a d'autres initiatives semblables au Québec ou ailleurs, mais ça fait partie de la longue liste des mobilisations. Donc, en lien avec un statut pour tous et toutes, évidemment, parce que des gens sont obligés de passer à travers bois pour aller voir de la famille, donc c'est un peu triste, là, disons.
Ted Prissé, lui, est mort du côté canadien en essayant de regagner les États-Unis.
Oui, oui, tout à fait.
Ça en dit long aussi sur la situation
à Montréal. C'est ce que je veux dire, mais les frontières d'un côté ou de l'autre. Oui, tout à fait, avec les questions de logement puis les questions de pauvreté. Donc, ben voilà pour ça. Sinon, ben on va se revoir dans 2 semaines, les amis, pour une émission régulière de 70 minutes.
Parfait.
Donc, ça va se passer le 26 janvier. On sera pas en direct, par exemple. On va préenregistrer parce qu'il y a des travaux, entre autres, à Choc dans les prochaines semaines. Donc, ben avant de partir, je voulais vous remercier tous les deux pour votre très beau travail en 2022 et pour cette émission 2023, rétrospective et perspective très, très, très riche en informations et en humour.
Ben oui, en tout cas, de l'information, de l'actualité, il y en a, ça c'est sûr. Merci beaucoup à toi, Mathieu, et à Marie-Ève, et à tout le monde qui nous écoute aussi.
Oui, maintenant, Coast to Coast, étant donné qu'on est aussi diffusé à Radio Victoria.
À Radio Victoria, 2 fois par semaine, les mercredis et les dimanches.
En Colombie-Britannique.
Et je vous rappelle d'aller sur notre site, ça vous tente pour écouter toutes nos émissions, entre autres, c'est apatridesanonymes.info. Notre page sur le site de Choc aussi, nos émissions qui sont là aussi en téléchargement ou en écoute balado. C'est donc choc.ca à Patrides Anonymes. Notre page Facebook qu'on alimente régulièrement, même pendant le temps des fêtes, avec des articles d'actualité, parce que l'actualité n'arrête jamais, même dans les congés. Donc, sur Facebook, c'est à Patrides Anonymes. Et sinon, notre courriel pour commentaires, informations, suggestions, c'est apatridesanonymes@resist.ca. Donc,
oui, moi, j'aimerais ça remercier Choc, en fait, pour nous faire confiance. Pour leur confiance, en fait, sur les ondes, de nous laisser encore sévir sur leurs ondes depuis maintenant, ça va faire...
Presque 4 ans.
Ben oui, c'est ça, on entame notre 4e année, là.
Oui, au printemps, ça va faire 4 ans, exactement. Donc, c'est la session d'hiver 2023, et elle est commencée. Et on vous invite à écouter Choc aussi en général. Donc,
ben oui, il y a plein de bons balados.
Oui, exactement. Et de la bonne musique aussi. Mm-hmm. Donc, on va se laisser avec une trouvaille que j'ai découverte il y a quelques semaines à peine. Mais c'est un groupe qui s'appelle Regressive Left. Leur premier EP sorti en juillet dernier. C'est un trio de Londres, gars et filles. Ils font du new wave, indie, post-punk, électro. C'est assez intéressant. Et le texte de cette longue chanson-là de 7 minutes est vraiment intéressant. Ça parle d'annulation, de woke, de privilèges. C'est le genre de sujet qu'on a parlé un petit peu dans l'année, ici à l'émission et ailleurs dans les médias. Donc, écoutez-le si vous voulez. C'est en anglais britannique, mais c'est très bien compréhensible. Mais moi, je le comprends. Donc, portez attention au texte.
C'est tout dire!
C'est tout dire! Madame Michaud, Jubinville!
Jubinville de Sainte-Rose!
De quoi vous parlez?
Du PQ! Donc, la pièce s'appelle The Wrong Side of History. On pourrait la dédier au PQ. Et le groupe s'appelle Regressive Left. Et on espère les avoir à Montréal en 2023. Donc, on se laisse avec ça. Bonne soirée à tout le monde. Merci Simon, merci Marie-Ève.
Merci Mathieu.
À dans 2 semaines.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Sure. like me. Yeah, I'm on the wrong side of history. I was born into a competitive family with bourgeois aspirations who grew lazy and bored, bored of too much opportunity. Desensitized to the taste of real life. Kano sucking the marrow from the bone. They don't know which house to call home, so they just eat vegetables and graze in the grass.
Taking your car.